Alors, dans cette cinquième séance, nous allons voir à nouveau un peu la dimension justement de religieuse du mariage. Parmi vous, il y en a pour qui c'est une. Les rappels sur l'existence de Dieu, l'histoire sainte, où on peut vous sembler, répétitif, mais là justement on va mieux comprendre aujourd'hui pourquoi le mariage dans la foi est un mariage devant cet esprit éternel, tout puissant, miséricordieux, créateur, mais père, et qui, je vous l'avais dit, lorsqu'il envoie son fils, et on est dans le temps de l'Avent qui est commencé, nous dit qu'il nous parle d'un mariage. D'un mariage, son fils va se marier, ce sont les noces. Et saint Jean-Baptiste, qui est un des grands personnages du temps de l'Avent, qui prépare la nuit de Noël, il ne faut vraiment pas oublier qu'il dit qu'il est l'ami de l'époux. Et si vous voulez un peu être romantique, lisez le petit livre dans la Bible qui s'appelle le Cantique des Cantiques. Et le Cantique des Cantiques, c'est un dialogue entre l'épouse et l'époux qui se cherchent dans Jérusalem, dans les murailles de Jérusalem, aux portes de la ville, ils cherchent et ils se trouvent, ils finissent par se trouver. Et ces poèmes de mariage sont connus en Orient. Et donc un de ces poèmes qui a été réalisé pour le mariage du roi Salomon, très certainement ensuite qui a peut-être été avec des ajouts, avec le temps, mais qui est vraiment typique d'une littérature poétique, a été inspiré par Dieu, suivant la parole de l'Église, le magistère de l'Église. Il dit, mais ce livre, c'est pas seulement de la sagesse humaine, de la poésie humaine, c'est l'histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. Et donc, la dimension religieuse du mariage humain, c'est un signe, un miroir. Et ce qu'on appelle un signe, on l'appelle un sacrement. Le signe qu'on passe de la mort à la vie en suivant l'agneau pascal qui offre sa vie innocente, ce petit agneau d'un an tout blanc, offert par le peuple juif pour sortir de l'esclavage d'Égypte, ce peuple qui va venir au pied d'un bras de la mer Rouge et qui va le traverser à pied sec, avec ce miracle de cette eau qui se retire et qui revient sur l'armée égyptienne qui poursuit le peuple hébreu, et qui est signe du baptême, du passage dans l'eau, être baptisé. Jean-Baptiste plongeait dans l'eau ceux qui voulaient changer de vie. Venaient à lui des prostituées, des mercenaires, des voleurs, des gens malheureux, des gens qui avaient des querelles, et puis des personnes qui s'estimaient très, très justes, très vertueuses, et qui étaient curieuses d'aller voir ce prophète. Et Jean-Baptiste leur disait à ceux qui étaient observants, très pieux extérieurement, qu'il fallait qu'ils soient sincères, parce que ceux qui venaient à lui et qui avaient une vie plus ou moins chargée, eux étaient sincères. Et le baptême, ça veut dire plonger, Jean-Baptiste les plongeait dans l'eau du Jourdain. Alors c'est quoi ce signe, ce sacrement? Un signe de quelque chose de plus que ce que le geste. Plouf. Alors, ça signifie qu'on est lavé, Mais ça signifie aussi le baptême qu'on meurt noyé, sous l'eau. Et quand on sort de l'eau, on respire à nouveau, ça veut dire qu'on est mort et qu'on revit. C'est le sacrement de baptême. Dans les mains de Jean-Baptiste, c'était un baptême de pénitence. Dans les mains de Jésus, c'est un baptême de victoire. C'est pas seulement la pénitence qui est offerte aux hommes, mais c'est la victoire. C'est-à-dire changer de vie, se convertir, mais surtout être dans une espérance et surmonter pour toujours le péché. Et donc, ça veut dire que même si on se casse la figure à nouveau, on dit, mais alors, je dois être rebaptisé. Non, il y a une force profonde dans le baptême qui fait que, pour toujours, on pourra se relever dans la victoire du Christ qui sort victorieux des eaux de la mort. Et Jésus nous parle d'un baptême de sang sur la croix. Il est submergé en quelque sorte par son sang, mais justement, il va reparaître le matin du dimanche, guéri, sans blessure, tout beau, ne gardant que les 5 plaies, et encore des plaies qui ne sont pas vilaines, qui ne sont pas agressives. Et saint Thomas, l'apôtre qui n'avait pas vu Jésus le dimanche de Pâques, le dimanche d'après, il avait dit, mais moi si je ne le vois pas devant moi, vivant, et si je ne vérifie pas que c'est bien lui, vous me dites qu'il avait les plaies des clous, et bien je veux mettre les doigts dedans. Vous me dites qu'il avait la plaie du coup de lance qu'il avait gardé, alors qu'il avait reçu plein d'autres coups, hein. Il n'a gardé que 5 plaies. Et bien une semaine plus tard, Jésus apparaît et Thomas est obligé, il lui dit, voilà, pose ta main là, tu vois mon côté. Et là, saint Thomas se met à genoux devant Jésus et dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est-à-dire qu'il fait un acte de foi, non seulement dans la puissance du Messie, du Sauveur, mais qu'il le reconnaît comme étant le Fils de Dieu par nature. C'est-à-dire que le secret du Dieu unique, c'est qu'il a un amour de Père et de Fils. Eh bien, cet amour de Père et de Fils, il ne peut pas plus aimer ses enfants, il ne peut pas plus aimer sa famille, il ne peut pas plus aimer l'humanité que de marier son Fils avec l'humanité. Les noces de l'agneau, l'ami de l'époux, saint Jean-Baptiste, c'est une preuve de l'amour de Dieu et c'est un signe du mariage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, il y a dans l'amour de l'homme et de la femme quelque chose de l'amour divin. Dieu a mis dans le cœur des personnes humaines une capacité d'aimer qui est une capacité d'aimer qui n'a pas de limite en soi, qui est dans le don. Ah non, c'est vertigineux, oui, ben, ça vous explique l'indissibilité du lien matrimonial qui est entre non-baptisés, entre un baptisé et un non-baptisé, et entre deux baptisés, exactement le même. Et donc, je vous prends le catéchisme de l'Église catholique, dans son... comment dire, son chapitre sur le mariage nous dit au numéro 1601: l'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints et à votre bonheur ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, si possible. Et vous voyez bien que le bien des conjoints suffit au mariage. Vous pourriez ne pas avoir vos propres enfants par maladie, par stérilité, vous serez quand même marié. Mais il y a un souhait naturel à ce qu'on ait ses enfants. Ensuite, pour accomplir, pour développer l'amour conjugal, si un couple ne peut pas avoir d'enfants, il est invité à adopter. Il n'est pas obligé d'adopter. C'est pas évident d'adopter. Il faut un appel intérieur et être prêt aussi. Donc cette alliance qui est ordonnée au bien des conjoints et à la génération et l'éducation des enfants a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement, c'est-à-dire de signe de quelque chose d'invisible et de puissant. L'Écriture sainte s'ouvre sur la création de l'homme et de la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu et s'achève par les noces de l'agneau. D'un bout à l'autre, l'Écriture parle du mariage et de son mystère, de son institution et du sens que Dieu lui a donné. Dieu qui a créé l'homme par amour l'a aussi appelé à l'amour, vocation fondamentale et innée de tout être humain. L'alliance nuptiale entre Dieu et le peuple juif, qui va protéger spécialement un peuple pour qu'il conserve la foi au milieu d'une superstition multipliée. Pour préserver la foi dans le Dieu unique et bon, eh bien, il va multiplier des miracles sur un peuple, le peuple hébreu, le peuple juif. Et il va souvent comparer ce choix qu'il a fait de ce peuple entre un choix entre l'époux et l'épouse. Et quand le peuple hébreu est un peu tenté par la superstition de tous les peuples qui les entourent, qui faisaient des sacrifices humains, je vous en avais parlé, mais qui étaient très superstitieux, qui pensaient qu'à la santé, à la prospérité, à gagner ces guerres, Dieu lui demandait beaucoup plus de bonté, de libération des esclaves, de justice dans la vie sociale, de justice dans la vie entre les, comment dire, même avec les autres nations, voyez, dans les contrats, dans les achats. Enfin. Eh bien, l'alliance nuptiale entre Dieu et son peuple Israël avait préparé l'alliance nouvelle et éternelle entre le Fils de Dieu qui s'incarne et se donne et donne sa vie et qui s'est uni d'une certaine façon toute l'humanité sauvée par lui, préparant ainsi les noces de l'agneau. Le numéro 1612. Et tout ce que je vous dis, je vous dis ce que l'Église vous dit. Au seuil de sa vie publique, Jésus opère son premier signe, c'est-à-dire son premier miracle, à la demande de sa mère, lors d'un mariage. Je vous en avais déjà parlé. L'Église accorde une grande importance à la présence de Jésus aux noces de Cana. Elle y voit la confirmation de la bonté du mariage et l'annonce que désormais le mariage sera un signe de la présence du Christ. Dans sa prédication, Jésus a enseigné le sens originel de l'union de l'homme et de la femme, tel que le Créateur l'a voulu, la permission de Moïse de répudier sa femme est une concession à la dureté du cœur humain. Il n'en était pas comme ça dès le commencement. Et Jésus surélève l'union en disant, eh bien, il n'y a plus de permission de se séparer. D'où la phrase dans Saint Matthieu chapitre 19 verset 6, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Alors, voyez, ce sacrement de mariage est impressionnant. Cette insistance sans équivoque sur l'indissolubilité du lien matrimonial a pu laisser perplexe et apparaître comme une exigence irréalisable. Même les apôtres disaient, mais non. Pourtant, Jésus n'a pas chargé les époux d'un fardeau impossible, à porter et trop lourd. Il y a une promesse particulière dans le mariage par Dieu. Dieu vous donne le signe de son amour, de son mariage entre lui et l'humanité, et il vous donnera de l'aide, des grâces particulières. Les grâces du signe d'amour de Dieu, du mariage de Dieu avec, l'humanité, eh bien, ce sont les grâces qu'on appelle sacramentelles. Alors, voyez-vous, cette importance, et là je vais m'arrêter sur le sacrement et on va parler un peu de la vie de prière dans les questions qui vous sont données. Il y a une particularité, c'est que deux choses. D'une part, vous mariez. La présence du prêtre est une présence privilégiée, une présence presque, si vous voulez, coutumière. Parce que jusque vers le XIe siècle, il n'était pas obligatoire de se marier devant un prêtre. Et jusqu'au XVIe siècle, il n'était pas, obligatoire. Enfin, du XIe au XVIe siècle, on demandait que le prêtre soit présent, mais ce n'était pas nécessaire. On pouvait se marier sans prêtre, mais c'était on désobéissait à un souhait de l'Église, que le mariage se fasse dans l'Église. Et à partir du XVIe siècle, à cause du développement juridique des registres et de l'État et des États, les nations, les rois, ont demandé à l'Église que les mariages entre baptisés soient bien écrits sur des registres et soient bien prouvés. Alors l'Église a concédé la nécessité juridique du prêtre pour assister à l'échange des consentements. Mais le prêtre ne vous marie pas. C'est une manière de parler. C'est vous qui vous mariez en vous donnant l'un à l'autre votre consentement. Pour preuve, dans le code de droit canonique, vous voyez, si vous êtes sur une île déserte et que vous voulez vous marier, vous avez deux témoins, hein, alors sans témoins, c'est plus compliqué. Disons que vous êtes au moins quatre sur l'île déserte, eh bien, vous pouvez vous marier si pendant un mois, il n'y a pas la possibilité de trouver un prêtre. Alors, en France, de ne pas avoir la possibilité de trouver un prêtre pendant plus d'un mois, c'est c'est pas vrai. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que la prière du prêtre, s'il y a une messe à votre mariage, c'est, si vous voulez, une assistance, une aide, une prière pour vous. Mais le mariage lui-même n'est pas la messe. Le mariage lui-même n'est pas la bénédiction du prêtre. Le mariage, c'est vos deux volontés qui se donnent l'une à l'autre. Ouais. Et ben, alors vous allez me dire, justement, on avait parlé un peu, je le redis, le mariage civil, eh bien c'est à cause de l'histoire de la France qu'il y a deux fois les échanges des consentements. Dans des pays où le fait religieux est moins conflictuel que dans l'histoire française, eh bien, l'échange des consentements n'a lieu qu'une fois. À la mairie, pour des personnes qui ne veulent pas de mariage religieux, et qui ne sont pas baptisées, ou dans leur religion, au temple protestant, à l'église catholique, mais du coup, c'est reconnu par l'État. Vous voyez ? Alors, petite particularité, parce qu'il y a un cas parmi nous, dans de nombreux pays, la situation de mariage entre un catholique et un un baptisé non catholique se présente. Entre un catholique et un protestant, un catholique et un chrétien orthodoxe, oriental. Ou alors, entre un catholique et un non baptisé. La différence de confession chrétienne entre les conjoints n'est pas un obstacle au mariage, lorsqu'ils parviennent à mettre en commun ce que chacun d'eux a reçu dans sa communauté chrétienne et à apprendre l'un de l'autre la façon dont chacun vit sa fidélité au Christ. C'est ce qu'on appelle les mariages mixtes. Et donc, les uns, dans le protestantisme, on peut éventuellement se séparer. Donc, quand un protestant se marie avec un catholique, on demandera aux protestants de bien vouloir décliner cette possibilité de se séparer et d'adhérer à l'indissoluité du mariage. Voilà. Et de la même façon, si on se marie avec quelqu'un qui a une religion non chrétienne, et si dans sa religion il y a la possibilité de divorcer, on lui demandera de faire ce qu'on appelle, mais ça c'est vrai pour tout le monde, une déclaration d'intention. Je souhaite être dans la liberté de mon consentement. C'est vrai pour toutes les personnes humaines. Je souhaite me marier avec elle ou avec lui, unité. Je souhaite être fidèle. Je souhaite être ouvert à la vie. Et je sais que c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc on demande cela parce que c'est la beauté du mariage. Et donc si un hindou, je ne sais pas d'ailleurs s'ils peuvent éventuellement répudier leur épouse, alors on leur demandera de renoncer à cette possibilité. Un musulman peut se séparer de son épouse, on lui demandera de renoncer à cette possibilité pour qu'on donne l'autorisation du mariage. Une personne qui serait athée, qui serait ni musulmane, même si elle a une culture musulmane, des parents musulmans ou chrétiens et musulmans, ou ceci, et qui lui est athée ou autre, on lui demandera d'adhérer à ce minimum de ce qu'on appelle des quatre piliers du mariage. Et alors, donc, c'est une permission qu'on donne, mais dans la confiance. Vous voyez ?
Et du coup, ces engagements, ils ne tiennent que vis-à-vis de la religion chrétienne ou
ça marche aussi pour sa religion ? Ça marche pour sa religion par rapport à son honnêteté intellectuelle.
Ça veut dire que dans sa religion, si on marie, il n'aura pas le droit. Il ne pourra pas se marier.
Par rapport à sa parole donnée. Dans toute religion, il y a une parole donnée. Donc, la concession qu'il fait par rapport à sa religion, c'est qu'il va renoncer à la possibilité de divorcer. Mais toutes les religions qui donnent la possibilité du divorce ne l'aiment pas, cette possibilité. Vous voyez, par exemple, demander à un imam ou demander à un rabbin, est-ce que le divorce est bien vu? Ils vous diront, non. Il est possible, mais il n'est pas souhaité. Voyez ? Donc, ce n'est pas trop violenter la personne que de lui demander de prendre la résolution d'aller dans le souhait profond, d'abord de sa religion, et ensuite dans le souhait de la religion chrétienne. Vous voyez, c'est pas non plus on lui demande pas d'apostasier. Vous voyez. Et la personne c'est-à-dire de renoncer à sa propre religion. Et celui qui est athée, et qui dit, pour moi, je ne sais pas si Dieu existe, ça c'est agnostique, athée c'est je suis certain que Dieu n'existe pas, on lui dit, sur la fidélité humaine de la parole donnée, et ça c'est universel, on vous demande de prendre cet engagement. Voilà. Alors, particularité, c'est que il y a des prêtres qui n'osent pas vous le dire, et moi j'ose un peu le dire, c'est que il y a des dons particuliers lorsque l'époux et l'épouse prient Jésus-Christ. Et il y a, comment dire, donc le signe du mariage est complet. Il y a sacrement de mariage. Lorsqu'un des deux ne demande pas les grâces du sacrement, il y a lien sacré du mariage, mais il n'y a pas au sens propre sacrement chrétien du mariage. Vous me direz, oui, mais s'il y en a un des deux qui est chrétien, oui, mais le mariage, c'est à deux. Alors on a moins d'aide de Dieu, Dieu privilégie les baptisés, et c'est différent. Ce n'est pas une question de privilège ou ceci ou cela, parce que vous pouvez avoir deux baptisés qui sont mariés avec le signe complet du Christ et de l'humanité, mais qui ne sont pas très pieux, qui s'en foutent un peu, qui ne prient pas beaucoup, et tout ça, blablabla. Tandis que vous avez un mariage, dans le lien sacré du mariage naturel, pas forcément, justement, pas dans la foi chrétienne des deux, mais avec des personnes extrêmement droites, extrêmement honnêtes, qui attirent Dieu dans des grâces particulières. Celui qui va justement faire des efforts pour être honnête, pour être droit, pour reconnaître ses torts, pour se réconcilier, pour pardonner, pour faire des efforts de pardon. Voyez. C'est pas magique. Le fait d'être baptisé, c'est pas magique. Hein. C'est pas « ouais, j'ai un talisman, je suis baptisé hein. ». Il y a une coopération entre la grâce, l'aide de Dieu, et notre volonté et notre liberté. Donc, voilà. Mais si un jour l'époux ou l'épouse est touché par une plus grande connaissance de l'amour de Dieu, une plus grande intuition de l'amour de Dieu, et qui désire le baptême, eh bien, on n'a pas à se remarier. C'est le même mariage qui va recevoir la grâce du sacrement parce que les deux deviennent chrétiens. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est chrétien et l'autre qui n'est pas chrétien qu'on va voir moins de grâce. Elles seront différentes. Parce que le bon Dieu, lui, il juge les cœurs. Voilà. Donc, des personnes peuvent très bien... être d'une telle pureté d'intention qu'elles attirent beaucoup, beaucoup de grâce. Voilà. Voilà. Et donc, d'où les questions qui vous sont demandées. Où en suis-je dans ma vie de prière? Est-ce que je crois que Dieu est mon Père? Est-ce que je crois que ce n'est pas... un être invisible, éloigné, comme ça. Est-ce que je prie? Est-ce que je lui parle à l'invisible? Mais pas seulement à l'invisible tout-puissant créateur, mais d'entrer aussi dans la foi chrétienne, hein, et de se dire, Dieu a parlé, Dieu a envoyé des hommes, des femmes, des enfants nous parler en son nom. Dieu a envoyé son propre fils. Est-ce que je peux lui parler? Est-ce que je peux parler à Marie? Je vous ai parlé des anges. Est-ce qu'on peut parler aux anges? Est-ce qu'on peut parler à Gabriel? Est-ce qu'on peut parler à Michel? Ai-je connu des moments de prière dans mon enfance? C'est là que vous dites, bon, voilà, on va se préparer à l'église, c'est un mariage à l'église, mais peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas... Vous vous dites, oh, ça me fait bizarre... De prier tout seul, ou de prier dans ma chambre, ou de prier dans une église, je sais pas, ou si je suis peut-être rentré pour allumer un cierge, tout ça, mais est-ce que j'ai dit des mots à Dieu? Est-ce que j'ai dit des mots à Marie? Oui. Mais peut-être que dans votre enfance, vous l'avez fait, tout ça, c'est... Une préparation de mariage, c'est l'occasion de... d'être bousculé, un peu. Comment ma prière, dans mon enfance, dans mon adolescence, ou plus récemment? Voyez, allez à la messe. D'abord parce que Jésus vous attend tous les dimanches. Bon. Enfin, du samedi soir au dimanche soir, pour la prière commune, mais aussi pour justement vous mettre en situation de prier. Parce qu'on a moins de prier si tout le monde prie autour de nous. Hein, c'est un peu le but du troisième commandement. Hein. Comment ma prière a-t-elle évolué? Qu'est-ce que prier? C'est plein de petites questions. Hein. Qui est Dieu? Qui est le Christ? Quelle relation ai-je avec lui? Jusqu'à maintenant, qu'a-t-il représenté dans ma vie? Noël, c'est quand même, vous voyez, quelque chose qui touche beaucoup. Hein. Enfin, Jésus, il ne reste pas quelques mois, hein, il grandit. Hein. Pour moi, qu'est-ce que croire? Si Dieu n'existait pas, qu'est-ce que cela changerait dans ma vie? À qui dois-je ma foi? Qui m'a transmise? Comment vivais-je ma foi en famille? Est-ce que je nourris ma foi? Quels sont éventuellement les enseignements dans l'Église que je ne comprends pas? Comment ma fiancée vit-elle sa foi? Suis-je prêt à respecter l'autre dans sa vie spirituelle? Exprimons-nous notre foi de la même façon? Comment à la fois aimer son conjoint et aimer Dieu? Qu'attendons-nous du sacrement de mariage? Est-ce que justement c'est un talisman qui va vous aider ou c'est une présence de Dieu qui est à vos côtés? Vous n'êtes pas des marionnettes et il n'y a pas des fils. Qu'est-ce que le Christ attend de notre couple? Que vous soyez aussi signe que c'est possible de vieillir ensemble. Mon père, attendez, on ne va pas vivre 50 ans de mariage. On décompte l'espérance de vie, tout ça. On ne peut pas, à un moment donné, à 50 ans, changer de partenaire? Non. Vieillir ensemble. Exercez-vous à regarder les vieux couples dans la rue. Trouvez la beauté des vieux couples. C'est beau, hein, un vieux couple. Ouais. Voulons-nous devenir saints en couple? Oh la vache. Ça, c'est Notre-Dame d'Auteuil. Hein, c'est... Non, c'est d'Auteuil, il a repris sur des machins. Comment? Comment la vie de nos saints préférés peut-elle nous aider? Si vous connaissez la vie, qu'est-ce que j'attends le jour de la célébration de notre mariage? Nous semble-t-il bon que notre couple puisse faire le point régulièrement sur les aspects positifs et négatifs de notre vie commune en Jésus-Christ? Hein, par exemple, la prière à deux. Oh, on n'a jamais osé. Ou alors, s'il y en a un qui prie moins, de ne pas avoir honte à un moment, de prier aussi. Nous semblerait-il bon? Est-ce que je cherche dans la prière à avoir le même regard que le Père sur mon fiancé? Oh, sortez les violons. Quels sont les moyens que nous envisageons dans la progression spirituelle de notre couple? Prêtre, père spirituel, ami, famille, association, paroisse, retraite, mouvement chrétien. Avons-nous déjà eu l'occasion de prier ensemble? Voudrions-nous faire un pas dans cette direction? Qu'est-ce qui nous aiderait pour prier? Avons-nous peur de nous dire nos divergences, nos désaccords sur la prière? Où en suis-je dans la pratique sacramentelle, l'Eucharistie, sacrement de réconciliation, ou suis-je confirmé? Parce que pour terminer mon intervention ce soir, peut-être que ça fait longtemps que vous n'êtes pas confessé. Qu'est-ce que c'est que la confession? Qu'est-ce que c'est comme signe? Puisque c'est un sacrement. Eh bien, c'est le signe d'une volonté d'être vrai. Reconnaître ses torts. Confession, c'est par rapport au péché. Mais reconnaître ses torts pour les lâcher, pour s'en libérer, pour être renouvelé, pour ressentir le pardon, pour ressentir une nouveauté, pour ressentir un poids qui tombe dans la reconnaissance vraie et sincère. Alors vous allez me dire, mais moi je peux faire ça dans ma prière personnelle, ou en parlant avec quelqu'un, tout ça. Pourquoi nécessairement avec un prêtre catholique? Eh bien parce que nous avons reçu la mission toute particulière avec des garanties spirituelles, de silence absolu et de profondeur dans la certitude du regard de Dieu dans ce regret et de seulement de Dieu. Par exemple, voyez-vous, il n'y a que le pape qui peut pardonner le péché d'enregistrer une confession. C'est un péché extrêmement grave. Pourquoi je vous donne cet exemple un peu bizarre, hein ? Parce que c'est inadmissible. La confession, c'est absolument secret. Et je vous avais déjà un peu dit un moment, voyez, on reprochera à l'Église de ne pas dénoncer des criminels qui se confessent. Et l'exemple bateau, c'est par exemple un pédophile qui se confesse. C'est le seul lieu de total pardon. On ne voit pas comment un fou malade, comment dire, se confesse. Ou n'obéirait pas au prêtre qui lui intime l'ordre de se dénoncer et de se faire soigner. C'est pas logique. Vous vous confessez, vous demandez à Dieu son pardon, et vous prenez à témoin un serviteur de Dieu qui est tenu au silence, mais vous devez obéir à ce serviteur de Dieu, qui vous dit, vous allez rechuter, vous faites du mal, vous regrettez maintenant, mais vous êtes trop faible, vous devez vous faire soigner, vous devez vous dénoncer à un médecin. Ou alors, vous devez réparer vos crimes, si c'est quelqu'un qui... Je sais pas, un assassin qui est pas fou, n'est-ce pas ? Mais on ne pourra donner le pardon de Dieu que si la personne dit toutes les conditions aussi d'un pardon. C'est pas automatique non plus. Alors, vous n'êtes pas des assassins, j'espère, n'est-ce pas ? Donc, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Pourquoi je me confesserais ? Eh bien, si par exemple vous avez mis Pâques avant les rameaux, n'est-ce pas, et que vous vivez ensemble, alors que, comment dire, vous étiez invités à vous faire la cour et à ne vivre ensemble qu'au moment où vous avez choisi de vieillir ensemble, pour toujours, dans la promesse du mariage, eh bien, attendez le jour de votre mariage, ou quelques jours avant, pour faire une bonne confession. D'abord de votre vie, voilà, de ce qui vous a blessé, dans ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait vivre aux autres, dans vos parents, vos amis, vos frères, vos sœurs, de dire une parole de vérité, et de vous trouver aussi dans une parole de vérité, l'un envers l'autre, en lui disant « Mais je m'engage, je me donne librement pour être un fidèle et pour accueillir la vie. » Et voyez-vous, moi, de manière très très réaliste, hein, je confesse les gens le matin même. Vous avez des prêtres plus âgés qui vont vous demander de vivre, de respecter le fait que vous n'êtes pas donné totalement corps et âme, et de, je sais pas, d'aller vivre chez papa et maman pendant un mois. Ou de faire lit séparé pendant un mois ou une semaine, ou je sais pas. Bon. Vous voyez, j'en parle de manière peut-être trop légère. Il y a des prêtres qui sont beaucoup plus sévères. Hein. Mais il n'empêche, vous voyez, au moins, essayer d'entrer dans le but de la confession, qui est maintenant, dans mon mariage, je m'engage dans l'amour librement, un et fidèle. Ensuite, pour terminer, il y a le sacrement de confirmation. Parmi vous, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas reçu ce sacrement. Donc, dans une préparation mariale, on ne va pas tout dire. À Notre-Dame d'Auteuil, ils ont 10 rencontres. Je pense que... Enfin, nous, on n'en est pas encore là. Hein. Je vois Rodolphe qui commence à dire... Mais c'est pas possible. Comment... C'est déjà pas mal. Avant, il y en avait 5, on en a fait 7. Eh bien, dans le sacrement de confirmation, j'en parle succinctement, c'est de l'huile d'olive qu'on vous met sur le front. Et ça signifie quoi ? Ça signifie l'amour de Dieu, la force de Dieu qui pénètre à travers votre peau jusqu'à votre âme. Parce que l'huile est une matière qui pénètre dans la peau, qui l'assouplit, qui la renforce, qui la soigne. Alors d'où ça vient cette huile d'olive? Eh bien Dieu, dans la Bible, a souvent parlé de l'huile parce que l'huile est parfumée. L'huile a une bonne odeur. L'huile d'olive est médicinale. L'huile d'olive soigne la peau, assouplit la peau. L'huile d'olive pénètre. Et, comment dire, c'est un signe de la venue de l'amour, de la venue de la grâce dans la personne humaine. Les prêtres ont versé de l'huile sur leur tête. Les rois ont versé de l'huile sur leur tête. Les baptisés sont oints avec de l'huile d'olive. Il y a trois huiles qui sont bénies. Un des signes de cette huile, c'est Jésus qui prie au jardin des Oliviers. Et sa belle âme est comme pressée par son amour, qui se jette pour soulager et consoler ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui souffrent du péché. Et son âme est comme pressée, comme on presse les olives. Et c'est pour ça que c'est dans la Semaine Sainte, et plus particulièrement même le proche du Jeudi Saint, où Jésus prie le jeudi soir, qu'on bénit trois huiles. L'huile qu'on appelle des catéchumènes, c'est de l'huile d'olive bénie pour celui qui va recevoir le baptême, pour qu'il s'ouvre à la grâce du baptême d'eau. L'huile des infirmes, c'est-à-dire je devrais parler d'abord du Saint-Crème, ce qui est une huile où on met un parfum spécial avec des plantes, avec de l'encens, c'est ce qu'on appelle du baume, qui a une très très bonne odeur. Et cette huile signifie justement la pénétration de l'amour dans l'âme humaine. Et avec cette huile, on met une onction d'huile sur les baptisés, sur celui qui vient de recevoir le baptême, pour signifier la nouvelle vie du baptême, la victoire sur le péché et la mort. On fait cette huile sur les évêques, sur les prêtres, sur les évêques, sur les églises, sur les cloches, je crois. C'est du Saint-Crème pour la bénédiction des cloches, je ne sais plus. Ça signifie la bénédiction de Dieu. Et c'est avec ce Saint-Crème qu'on confirme. Qu'est-ce que ça veut dire, la confirmation? C'est que lorsqu'on est plus grand, et après son baptême, on nous confirme dans la foi, on renforce notre foi par à nouveau ce signe de l'huile, mais à un âge de conscience pleine. On est baptisé bébé parce que, comme on peut être baptisé adulte et même à 90 ans, mais on est baptisé bébé pour nous donner le germe de l'amour de Dieu dans l'âme qui ne peut pas dire non. La volonté du bébé ne peut pas s'opposer, même s'il pleure et s'il a faim. Et en fait, c'est l'amour de Dieu qui lui est donné dans le baptême d'eau pour les enfants. Mais la confirmation, elle demande dans son principe de la conscience. Parce qu'il y a une force d'âme. On demande à Dieu de la force d'âme. Or, la force d'âme, c'est pour la... C'est pas pour le bébé, quoique le bébé a sa petite vie. Et donc, dans le mariage, on demande à ce que vous puissiez être confirmé pour avoir une force d'âme, pour être persévérant, pour être courageux, généreux dans votre vie. Voilà. Alors, il y a une préparation à la confirmation qui peut vous être proposé. Je ne sais pas si vous avez été confirmé. Oui? Non? Vous ne savez pas? Ou... Parfois, on ne sait pas. Quand on a été confirmé à 10-12 ans, ça fait loin.
Vous parlez de la grande confirmation?
Oui. Pas la communion solennelle. C'est quand l'évêque vous met l'huile d'olive sur le front. Et vous-même?
Non.
Non? Vous? Oui. Donc, vous voyez, ça, c'est un... Si vous êtes touché par la grâce, voyez, si vous vous posez des questions, si vous faites avec sérieux ce partage à partir des textes bibliques, si vous lisez l'Écriture ensemble, peut-être que vous ferez un chemin. Et donc, on vous y invite. Parce que le sacrement qu'on vous invite à recevoir le jour de votre mariage, c'est, si vous avez fait une confession simple et sincère, c'est de recevoir Jésus dans la Sainte Hostie. Est-ce que vous avez tous fait votre première communion ? Oui. Donc le jour de votre mariage, en ayant rencontré un prêtre seul à seul les jours avant, pour lui parler dans le secret de la confession, de la confiance, vous lui parlez de votre vie, et il vous donne le pardon de Jésus, et le jour de votre mariage, de recevoir Jésus dans ce mystère de ce pain qui a été pris par le peuple hébreu, de ce pain qui a été pris par Jésus dans le repas pascal, et de faire de ce pain l'agneau. Vous voyez, on mangeait aussi de l'agneau, on mangeait du pain azyme, on mangeait de l'agneau, mais Jésus va faire cesser les sacrifices d'animaux et va demander un sacrifice d'une très grande spiritualité, c'est-à-dire du pain et du vin, son corps et son sang. Mais le prêtre, lui, doit manger le corps et le sang, mais les fidèles, eux, sont pas tenus de boire aussi à la coupe, parce que si plusieurs personnes boivent, tout ça, c'est... En Orient, on plonge l'hostie dans le précieux sang, dans le vin transformé dans le sang du Christ. Mais comme Jésus est vivant, Jésus est en personne dans l'hostie, en personne dans la coupe. Donc, vous n'avez pas plus ou moins Jésus si vous ne communiez pas à la coupe. Vous voyez ? Jésus est vivant avec sa personne, son corps, son sang, son âme, sa personne. Et alors, quel est ce sacrement ? Mais ces signes d'amour et d'humilité que Dieu se met dans ce qui ressemble toujours à un morceau de pain et où il est présent en vérité et il rentre en vous pour vous illuminer et pour vous aider. C'est ce qu'on appelle le sacrement, le signe de l'Eucharistie. Vous voyez, signe du baptême. On meurt à la haine, au péché, à la maladie, à la souffrance, et on est dans l'espérance de la résurrection et de la victoire. Ça, c'est le baptême. C'est le signe d'espérance, le signe de victoire sur tout ce qui peut être pesant dans la vie humaine. C'est signe de vie, signe de joie, signe de générosité. Oui. Dans la victoire de Jésus. C'est ça le baptême. Ensuite, vous avez le sacrement de confirmation, qui vous renforce dans cet amour, qui vous est conseillé fortement, mais pas obligatoire. Le sacrement de mariage, qui est signe de l'amour de Dieu pour l'humanité. Le sacrement de l'Eucharistie, communié, qui est signe de la volonté de Jésus qui s'est fait homme, de vous embrasser, de venir en vous. Et quelle est la meilleure façon de venir dans le corps et dans l'âme de quelqu'un ? Eh bien, c'est de non pas de faire des victimes animales comme dans l'ancien temps, mais une hostie, hein, du pain azyme, qu'on mange et on demande à Dieu de nous donner sa présence et sa lumière. Bon, je crois que je ne pouvais pas faire plus sacrement ce soir, mais bon, il faut bien faire une séance sur le sacrement de mariage. Et donc, je voulais faire 45 minutes, j'ai fait 49, mais ça c'est normal.